Mesdames, messieurs, bienvenue à la balado sortie de zone. On passe d'un Jérémy à un autre. Habituellement, c'est le Fab Four. Aujourd'hui, on sera le Fab Three en compagnie des gars de la presse, Guillaume Lefrançois, qui est avec nous. Salut, Guillaume.
Salut, Jérémy.
Simon-Olivier Larange qui est là. Salut, Simon-Olivier.
Salut, Jérémy.
Et Jérémy Rainville, je suis là. Donc, notre chum Philo aujourd'hui nous a faussé compagnie. Tu sais, des fois, l'euro, c'est important. Fait que donc, on doit y aller là-dessus. Mais clairement, maintenant, on connaît l'adversaire du Canadien pour cette demi-finale de la Coupe Stanley. Ce seront les Golden Knights de Vegas. Et là, l'horaire est défini. Ça commence lundi à Las Vegas. 21h présentation de ce match ici au Québec. Dans un premier temps, Guillaume, je vais y aller avec toi. T'as vu ce dernier match entre l'Avalanche Colorado et les Golden Knights de Vegas. Ton idée, comment tu vois ce duel-là entre le Canadien et les Golden Knights suite à cette performance que t'as vue hier?
Ben, je pense que c'est l'équipe la plus équilibrée que le Canadien a rencontrée jusqu'ici. C'est assurément le meilleur top 4 en défense. Martinez, Pietrangelo comme premier duo. McNabb, Théodore. Tu sais, chez Théodore, on parle pas beaucoup de lui. On dirait, c'est sûr qu'il est dans l'ombre de Pietrangelo et du reste de l'équipe, mais c'est un gars qui a des chiffres comparables à ceux de Jeff Petrie. C'est un très bon défenseur offensif qui s'ajoute à Pietrangelo. Solide top 9 à l'attaque des Golden Knights, et puis quand je vois leur quatrième trio, ça me rappelle beaucoup ce que les Islanders font depuis quelques années. C'est de la robustesse, William Carrier, Ryan Reeves, Colzar aussi, la recrue. C'est des joueurs que je pense que pendant 5, 6, 7 matchs, ça peut finir par faire mal de jouer contre eux.
Simon-Olivier, de ton côté?
Moi, je dois dire que j'ai peu vu la série Colorado-Vegas parce que mes horaires de nouveau père me font dormir un petit peu plus tôt que les séries dans l'Ouest. Mais j'ai regardé quand même un bout du match hier soir, donc une partie de la victoire ultime de Vegas. Je pense que ça va être difficile pour le Canadien. Ça allait très, très, très vite. Évidemment, c'était une série typique de l'Ouest. Mais en fait, Guillaume a élaboré sur les forces. Je vais aller un petit peu plus loin que lui. Quand il parlait du top 4 en défense, je dirais le top 6 en défense parce que le Canadien s'apprête à affronter non seulement la meilleure défense qu'il a affrontée cette saison, mais la défense la plus équilibrée qu'il a affrontée dans ces séries-là. À Vegas, tout le monde joue à peu près 16 minutes et plus. Si je regarde ça, le défenseur le plus utilisé, évidemment, Pietrangelo, à 24 minutes, serait tout juste troisième chez le Canadien, presque quatrième. Alors vraiment, la menace vient de partout. Ils vont en avoir plein les bras.
OK. On se gardera à la fin de ce balado, là, on se gardera nos prédictions pour cette série demi-finale de la Coupe Stanley entre le Canadien et les Golden Knights. Mais pour l'instant, ce que je peux comprendre rapidement de vos propos, c'est que vous voyez pas le Canadien dans, j'allais dire dans la même ligue, mais on voit pas nécessairement une similitude des forces entre les deux formations, Guillaume.
Ben en fait c'est sûr on nage un peu dans le noir parce que ça fait pratiquement un an et demi que le Canadien et les Golden Knights sont pas retrouvés sur la même patinoire ou même contre les mêmes adversaires là, donc c'est quand même très très dur de juger, mais c'est ça, moi c'est vraiment en termes de talent en général, de profondeur, de construction d'équipe. Tu sais, je veux dire, oui, le Canadien est complet à sa façon, mais ça atteint pas les mêmes niveaux, disons, que ce que les Golden Knights ont. Tu sais, on a parlé de tout ça, on n'a pas encore parlé de Mark Stone, qui est un candidat au trophée Selke à chaque année, qui est très très, tu sais, qui est très doué offensivement en plus. Je veux dire, les Golden Knights ont pas beaucoup de faiblesses, qui étaient pas vraiment le cas de toutes les équipes de la division canadienne.
Simon-Olivier, moi je veux savoir quelle sera la plus grosse histoire dans cette série entre le Canadien et les Golden Knights. Est-ce que ça sera Max Pacioretty qui revient en tant qu'ancien capitaine, le nombre de Québécois du côté de Vegas comparativement à celui de Montréal? Comment tu vois la plus grosse histoire dans cette série-là?
Je pense que ça va être Pacioretty parce que, tu sais, déjà ce matin, à la disponibilité média du Canadien, il y avait Nick Suzuki qui répondait à des questions sur l'échange. Tu sais, Nick Suzuki a rien à raconter sur Vegas. Il n'y a pas de racines à Vegas. Fait qu'imaginez-vous ce qui attend Pacioretty. On va en entendre parler. Puis en plus, il a connu une bonne saison, on connaît des bonnes séries. C'est quelqu'un qui adore, tu sais, tout marche pour lui à Vegas. Alors, tu sais, l'occasion est belle pour lui de venir hanter son ancien club. Je pense que le Québécois, on va en parler ces jours-ci. Puis un coup que la série va commencer, je pense que ça va être, ça risque d'être derrière nous, sauf peut-être au match 6 qui serait disputé à la Saint-Jean. Fleury, c'est une super histoire cette année, mais c'est un, j'ai pas l'impression, tu sais, il y a pas d'animosité avec le Canadien, ou même s'il a joué souvent contre le CH, contre Pittsburgh. Je pense que le focus pour l'histoire de la série, pour reprendre ce que ta question, ça va vraiment être celle de Max Pacioretty. Puis on s'ennuiera pas.
Guillaume, moi, je veux savoir, Fleury, là, honnêtement, n'a pas toujours connu de bonnes performances face aux Canadiens. Comment tu vois ce duel-là entre Fleury et Carey Price?
Ben, c'est ça, justement. Je dirais qu'on, contrairement à Simon Olivier, ben, premièrement, oui, aucun doute que Max Pacioretty, ça va être une histoire parce qu'en plus, il se gêne jamais pour dire ce qu'il pense. Mais, moi, je crois que le duel Price-Fleury peut être une histoire, justement. Comme tu dis, d'abord, parce que bon, Fleury a affronté le Canadien une seule fois en série et on s'en souvient, c'était en 2010 et le Canadien l'avait emporté. Et au-delà de l'historique en soi, je veux dire, il y a toujours, du drame autour de la gestion des gardiens à Vegas. Peter DeBoer, j'ai hâte de voir comment il va réagir si Marc-André Fleury connaît une mauvaise performance. De l'autre côté, Carey Price jusqu'ici a vraiment toujours donné une chance aux Canadiens. Donc, j'ai comme l'impression que ce duel-là devant le filet pourrait faire jaser s'il fallait que Fleury ait une moindre défaillance là, parce que ça reste que les Golden Knights, même si Robin Lehner a pas été bon dans le seul match qu'il a joué, ça demeure quand même un gardien numéro un dans la Ligue nationale. Là, ça va être vraiment, vraiment intéressant de voir comment ça va se jouer.
Simon Olivier, crois-tu que le Canadien pourra poursuivre sur cette séquence de bonheur en série de fin de saison? Là, c'est 7 victoires de suite. On a mené à tous les matchs. Price était solide. Est-ce que tu penses que la balloune va péter, celle du Canadien?
Ben, je vais commencer par dire oui, mais je vais tout de suite faire une parenthèse en disant que j'avais prédit les Jets en 5. Fait que je sais pas quelle crédibilité ça me donne pour juger de cette série-là. Mais néanmoins, comme je disais, j'ai vraiment l'impression que c'est un débalancement des forces. Le Canadien a toujours été négligé jusqu'ici dans les séries contre les Leafs, même contre les Jets dans une moindre mesure. Cette fois-ci, l'écart est considérable. C'est quand même 23 points de plus au classement dans un calendrier de juste 56 matchs qui ont séparé les deux équipes pendant la saison. Je vois pas le Canadien réussir à aller au bout d'une série 4-7. Je pense pas que le Canadien va se faire balayer nécessairement, mais ça va être extrêmement difficile. Et je pense que la clé, puis c'est un peu là-dessus que mon texte du jour va tourner, c'est sur vraiment la défense de Vegas. Le Canadien n'a rien vu tel cette saison. L'accès au filet va être chèrement gagné.
Et de ton côté, Guillaume, t'en penses quoi?
Ben c'est ça, il va y avoir une espèce de l'extérieur, du moins là, je veux pas dire que les joueurs du Canadien vont se sentir comme ça, mais de l'extérieur, il y a un complexe d'infériorité, je pense, assez majeur. Les Golden Knights ont gagné 7 rondes éliminatoires depuis qu'ils sont dans la Ligue nationale en 2017-2018. Pendant ce temps-là, le Canadien en a seulement gagné 3. Le Canadien a gagné 6 rondes en tout sous Marc Bergevin. Alors, tu sais, on n'est vraiment pas dans les mêmes barèmes. Les Golden Knights sont une équipe aussi qui est vraiment à maturité. Donc, tu sais, moi, je trouve que c'est là qu'on voit aussi le débalancement. Là, au-delà de ce qui s'est fait cette saison, je veux dire, t'as comme l'impression que les Golden Knights sont vraiment mûrs pour se rendre en finale. Je sais qu'ils ont déjà été, mais tu sais, pour y retourner une nouvelle fois, je veux dire, année après année, ils sont compétitifs.
J'aimerais ça t'entendre, toi, Jérémy, toi qui ne déteste pas un bon coup d'épaule, ta perspective sur cette série-là, quand même, de gros bonshommes de chaque côté.
Je suis tellement prêt à ça, parce que j'allais dire, le fait que la planète hockey, encore une fois, voit le Canadien ne pas être capable de passer au travers celle des Golden Knights de Vegas, et juste vous dire, les preneurs au livre là, sont assez d'accord avec tout ce que vous dites. Moi, je vais vous dire une chose, ça sera la première fois que les Marchessault, les Pacioretty, Stone peut-être un peu moins, mais dans le cas de Pacioretty et Marchessault, quand ces gars-là ne marquent pas, on sent de la frustration. Et je vous le dis, la défensive du Canadien va frustrer ces gars-là, les attaquants, mais le défi des défenseurs des Golden Knights demeure un très, très grand défi pour l'échec avant du Canadien. Fait que donc, comment on va arriver à trouver un juste milieu entre frustrer l'attaque des Golden Knights de Vegas et être capable d'aller marquer offensivement, je pense que là, ça va prendre des petits miracles. Là. Ça va prendre des petits miracles du côté du Canadien. Il va falloir qu'il y ait des gars. Tu sais, je regardais Alex Tuch. Alex Tuch qui a joué un bon match, dans celui d'hier. Solide, coup d'épaule, trouve le moyen d'être au filet, de marquer. Ben ça, pour moi, c'est Josh Anderson. Ça va prendre un réveil exact. De ces gars-là. Tu sais, c'est Josh Anderson qu'il va falloir qu'il soit hyper présent, puis ça va prendre une production offensive. Je sais pas ce que vous en pensez, Guillaume.
Ben oui, c'est ça, exact. J'avais exactement la même lecture que toi en voyant Tuch jouer hier. Je me disais en fait que c'est Josh Anderson, mais productif. Parce que bon, tu sais, oui, Anderson a un effet à sa façon, mais toujours pas sur la feuille de pointage. Tandis que Tuch a été capable jusqu'ici là, de donner de l'attaque. Mais effectivement, c'est deux alliés faits dans le même moule. La seule petite chose que j'allais ajouter, parce que je voulais pas laisser Simon Olivier être le seul à faire de l'autodérision. J'espère moi aussi que les preneurs au livre ne m'écoutent pas parce que j'avais les mêmes Maple Leafs au premier tour, j'avais les Jets au deuxième tour et j'avais la Coupe Stanley à l'Avalanche. Donc, si vous allez à Vegas, s'il vous plaît, écoutez-moi pas. j'ai pas un bon printemps en termes de prédiction. Là.
En plus, si vous allez à Vegas, vous allez peut-être croiser Guillaume qui part pour Vegas, justement, se faire griller dans cette série-là. Fait que attention à qui vous croisez. Là.
Et moi, je vous rappelle que à la première année où les Golden Knights sont allés en finale de la Coupe Stanley, j'avais prédit qu'ils étaient pour être éliminés au premier tour. Fait qu'à partir de là, moi aussi, j'ai zéro crédibilité. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Messieurs, savez-vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter, on va faire une courte pause, puis là, après, on va plonger un peu du côté du Canadien de Montréal, parce que là, cette semaine, on est en préparation, et là, sans sortir les grands esprits puis les grands fantômes de l'organisation, on est allé chercher des gars qui ont beaucoup d'expérience. Bob Gainey est venu visiter les joueurs dans le vestiaire, puis je veux avoir votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce que ça peut amener à tout ça? On s'arrête quelques instants. Merci d'être avec nous à Sortie d'onde. On est de retour à cette balado sortie de zone en compagnie de Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange. Non, ne vous trompez pas. Nous sommes juste trois aujourd'hui, notre chum Jérémy Filosa. Et je pense qu'il s'est peinturé la bédaine aux couleurs de l'Italie en vue de l'Euro. Fait qu'aujourd'hui, il y avait un tatou à se faire faire également. Mais vous comprenez que c'est l'humour. Ceci étant dit, messieurs, avant d'aller à la pause, j'ai parlé de la venue de Bob Gainey du côté du Canadien en marge de ce duel demi-finale de la Coupe Stanley entre le Canadien et les Golden Knights de Vegas. Vous en avez pensé quoi lorsqu'on apprend que Gainey est là? Qu'est-ce que Gainey peut apporter? Pensez-vous que les joueurs sont capables de capter l'importance du message de Bob Gainey dans un premier temps, Simon-Olivier?
Ben, j'étais un peu dubitatif quand j'ai vu ça, cette histoire-là de Bob Gainey. Je pense que oui, les joueurs, évidemment, peuvent le capter, mais je trouve que c'est un choix un peu particulier du fait que Gainey avait tout son historique comme DG du Canadien. Tu sais, c'est un gars que, tu sais, ça a été le boss de Carey Price. Tu sais, c'est comme, c'est pas... C'est évidemment un ancien joueur, mais on dirait que dans l'esprit collectif, c'est pas comme par exemple Guy Lafleur ou Yvan Cournoyer qui ont vraiment été des joueurs pour le Canadien. Alors si ça peut les inspirer, tant mieux. Je me dis qu'on a tellement parlé de l'importance des vétérans dans le club, Perry, Weber, Stahl, etc., de la manière qu'ils se sont levés avant le cinquième match à Toronto et tout. Moi, cette histoire-là, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid, je dirais. Là.
Et Guillaume, de ton côté?
Ben, premièrement, il y a une chose que j'ai comprise à force de suivre Dominique Ducharme dans les derniers mois, c'est qu'il n'y a jamais rien vraiment qui est laissé au hasard. Je pense que tout ce qu'il fait, il y a une intention derrière ça. Donc, je suis quand même persuadé qu'il y a une logique derrière tout ça. Cela dit, pour le message et l'effet, c'est très dur à dire. Puis ça d'ailleurs, c'est très drôle parce que Ducharme semblait être dans une drôle de position. Il n'avait pas vraiment l'air à l'aise à ce que à entrer dans les détails, à en parler, il y a vraiment pas dit grand chose là-dessus. Sauf que d'un autre côté, je pense que le Canadien avait vraiment tout intérêt à ce que ça se sache parce que depuis des années que le Canadien se fait critiquer pour tenir les anciens un peu trop loin de l'organisation, tout ça. Tu sais, Marc Bergevin avec les anciens, visiblement jamais eu un grand lien et ayant lui-même jamais joué pour le Canadien. Donc, tu sais, il a été critiqué longtemps. Il y a plusieurs anciens qui ont fait des sorties au fil des années. Alors, c'est sûr que d'un point de vue de relations publiques, je pense que c'est ça. Le Canadien voulait que ça se sache, mais en même temps, sans dire trop de détails. Donc, c'était quand même drôle de voir Dominique Ducharme jongler avec ça cette semaine-là.
Mais c'est quand même pas banal, moi, je pense, la venue de Bob Gainey. Puis je vais tenter de vous donner mon point de vue là-dessus, puis vous me direz ce que vous en pensez. Si t'arrives, tu prends, t'amènes Guy Lafleur. On l'a vu, Guy Lafleur a fait des sorties publiques récemment. Guy Lafleur vient, c'est un gars qui est inspirant, c'est le démon blond, c'est le gars qui marque des buts. T'as le message de Guy Lafleur, les gars reçoivent ça, puis on part avec ça. Si t'amènes Gainé, par contre, ça représente, selon moi, ce que Dominique Duchamp veut de son équipe, c'est au pic et à l'appel. C'était ça, Bob Gainé, un travailleur acharné, un gars qui est prêt à sacrifier son corps pour le résultat positif de l'équipe, puis un gars qui amène du calme, qui amène une certaine sérénité, puis qui amène, tu sais, faut pas paniquer, il faut, même dans l'adversité, même quand ça va mal, il faut être capable de garder le cap. Moi, c'est de cette façon-là que j'ai vu la venue de Bob Gainé, et c'est pour ça que j'ai l'impression que le message peut avoir rentré comme une tonne de briques. Simon Olivier, toi, tu disais, j'ai pas l'impression que ça va marcher, mais moi, mon feeling, c'est, écoute, t'en as un solide, là, un col bleu, là, c'est le meilleur col bleu qu'on a eu avec dans l'organisation du Canadien de Montréal.
Juste qu'on me comprenne, j'ai pas l'impression que ça marchera pas. C'est juste que moi, je suis pas personnellement un fan des interventions divines des anciens. Tu sais, on a vu dans les dernières années les Oilers d'Edmonton qui ont quasiment, je pense qu'ils ont enlevé les références aux années Gretzky de leur vestiaire parce que ça mettait une espèce de pression sur leurs joueurs.
Mais ça, c'était Dallas Eakins, par contre, là. Dallas Eakins, il arrête juste mettre des miroirs pour se regarder lui-même, là.
Mais de toute façon, Edmonton.
C'est ce que je pense.
Il y a rien qui a fonctionné. Fait que je suis pas de référence. Mais mon point étant, tu sais, les fameuse 24 Coupe Stanley du Canadien, là, à la 24e, il y a à peu près personne dans ce vestiaire-là qui était né ou qui était en âge de l'apprécier. Tu sais, Bob Gainé a gagné ses Coupes Stanley avec le Canadien dans les années 70 puis en 86. C'est pas, tu sais, je vois pas vraiment, tu sais, concrètement, quel point de vue pour un joueur que, par exemple, un Corey Perry, tu sais, qui a gagné la Coupe, qui a gagné aux Olympiques, qui est passé partout, tu sais, avoir Bob Gainé, ben, c'est sûr, Bob Gainé, son parcours et tout, mais moi, je suis pas un fan de tout ça. Maintenant, si les joueurs répondent à ça, ben, je vais dire bravo le Canadien, excellent coup. C'est juste, en tout cas, si moi j'avais été motivé, je suis pas sûr que c'est la voix chaude d'un Bob Gainé qui viendrait changer ma journée.
Je peux comprendre, sauf que, tu sais, à travers le temps, je pense que le hockey a changé énormément, puis tu le mentionnes, mais l'effort demeure la même. Moi, pour moi, quand t'as quelqu'un qui est là, qui a connu les blessures, qui a connu l'effort, de partager la somme de travail à accomplir pour obtenir ce que t'as besoin. Je pense que ça, nonobstant t'es qui, si t'es quelqu'un qui te le dit, t'as pas le choix d'écouter, là. Vas-y,
Gainé. Ben, exact. Puis c'est ça. Puis ce que Gainé faisait, c'est, le style de joueur que Gainé était, c'est quand même à la portée de plusieurs joueurs du Canadien. Tandis que, comme tu disais tantôt, tu sais, si t'amènes Guy Lafleur, Guy va beau dire, ben oui, tu sais, c'était facile, arrive à droite puis décoche un tir puis lance, puis ben, Guy Lafleur, t'as simplement un talent naturel, générationnel, que personne vraiment a, tu sais, puis c'est, tandis qu'effectivement, je vous ai Bob Gainé, il y a peut-être des joueurs quand même qui peuvent s'identifier dans ce qu'il a accompli, puis qui peuvent jouer avec des côtes cassées, ou peu importe ce que, ou des épaules séparées, je me souviens pas, mais bref, le genre de truc qui a fait la légende de Bob Gainé au fil des années.
Messieurs, le fait d'avoir cette pause-là, c'était un repos salutaire. Est-ce que ça va dégonfler la balloune du Canadien? Est-ce que l'intensité sera là, malgré qu'on n'aura pas le choix? Quand tu as 18 000 personnes à Vegas, d'après moi, si t'es pas allumé, là, t'allumeras jamais. Simon-Olivier, je veux t'entendre là-dessus.
Ben là, c'est drôle parce que on se retrouve dans la situation exactement inverse du tour précédent. Les Jets avaient gagné en 4 au premier tour, le Canadien avait gagné en 7. C'est les Jets qui arrivaient reposés. Puis même Guillaume avait écrit là-dessus sur le fait que dans les dernières années, ce cas de figure-là assez rare d'une équipe qui a gagné en 4 contre une équipe gagnée en 7 arrivait peu et donnait l'avantage aux équipes qui avaient gagné en 7. Donc à ce compte-là, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le Canadien. J'ai l'impression que le fait que ce soit un tour supplémentaire change quand même la donne dans la mesure où le Canadien là, il y a des bobos à soigner. Tu sais, les Jets, je pense pas qu'ils étaient si maganés que ça, peut-être à part Paul Stachny du premier tour. Je pense que, tu sais, il y avait faim, il en voulait d'autres. Je pense que pour le Canadien, même la série contre les Jets a été surprenamment courte, mais on reprenait encore un peu son souffle, peut-être, de contre Toronto. Je pense que ça peut tomber à point nommé.
Toi, Guillaume, de ton côté?
Ouais, ben premièrement la longue pause, oublions pas, ce qui est pas négligeable, c'est que ça achète quand même des jours de plus à Jeff Petrie pour guérir. Puis ça, je veux dire, au-delà de toute question de momentum ou de repos, ça c'est vraiment très 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 important pour le Canadien de revoir Jeff Petrie, même si parmi le top 4 en défense, c'est peut-être lui qui a été le moins bon des quatre. Ça reste que t'as besoin de lui. Donc là-dessus, ça va être très salutaire pour le Canadien. Ensuite, ben effectivement, pour la question d'être pris peut-être flat foot, là, comme on peut dire, si vous me permettez l'expression, je pense qu'effectivement, pour le Canadien, le fait de jouer un premier match dans un aréna plein, ça peut suffire là à chasser toute conséquence négative là, d'avoir eu une pause un peu plus longue. Mais tu sais, oublions pas non plus que les Golden Knights eux-mêmes ont quand même 3 jours de congé entre les deux matchs. C'est pas comme justement le Canadien au dernier tour qui avait eu juste une journée qui continuait. Donc tu sais, on peut se demander aussi si le petit 3 jours peut couper les ailes aux Golden Knights là, qui eux viennent quand même de gagner 4 matchs de suite et puis qui auraient peut-être préféré continuer plus rapidement là.
Messieurs, je sais pas qui de vous deux a des précisions, mais est-ce qu'on a des détails un peu sur Jake Evans, sur Merrill, sur Petrie pour le retour au jeu potentiel? Est-ce que vous avez de l'info là-dessus?
On n'a pas on n'a pas de détails comme tel individuellement. J'ai posé la question à Dominique Ducharme ce matin. Les trois, semble-t-il, vont mieux, prennent du mieux. Ducharme a dit qu'il s'attendait pas à avoir aucun des trois dans le match numéro 1 contre Vegas, mais de ce qu'on comprenait un peu de, tu sais, Ducharme étant parfois un peu énigmatique, surtout sur le sujet des blessures, je m'attends à revoir au moins un ou deux des trois dans cette série-là. Surtout Jeff Petrie, je pense que si ça commence à chauffer contre Vegas, le doigt risque de faire moins mal. Mais sinon, j'ai même demandé de dire lequel t'es plus proche d'un retour, puis il a pas précisé. Mais je mettrais un petit 2 que Petrie va avoir moins mal tout à coup si jamais ça commence à être difficile en défense.
Messieurs, je veux vous entendre sur quelque chose. Je veux revenir sur le point de presse de Romanov hier. Sincèrement, j'aime la binette de ce gars-là. C'est un gars souriant, c'est un gars qui est enjoué, maîtrise pas trop l'anglais, puis tu sais, tu le vois qu'il s'en va avec ça, puis c'est pas, il est pas en plein contrôle de tout ça, mais je le trouve agréable. Il a dit quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est, j'écoute mes coachs. Si mes coachs me disent de faire ça, ben je le fais, tu sais. J'ai trouvé ça intéressant de la part du kid qui a pas joué le gars hautain. J'ai connu une mauvaise fin de saison. Les 7 derniers matchs ont été plus difficiles. Je comprends pourquoi j'étais pas là. Là, il faut juste que je contrôle mon énergie, que je sois à la bonne place. Mais j'ai aimé entendre la candeur d'Alexander Romanov. Je sais pas, Guillaume, qu'est-ce que t'en penses?
Ben non, effectivement, puis tu sais, ça démontre clairement que c'est pas quelqu'un qui est en train de blâmer toute la planète parce que justement il a été laissé de côté pendant presque toutes les séries jusqu'ici. C'est sûr que tu sais, bon, comme tu dis, il y a peut-être une question de langue là-dedans. Est-ce que s'il était dans un contexte plus à l'aise, il se défendrait un peu plus? Regarde, ça c'est très très dur à dire, mais de toute évidence, il montre des bons signes. Puis tu sais, il peut bien dire ce qu'il veut devant les micros, mais je trouve que ce qu'il dit, ça correspond aussi à ce qu'on voit sur la patinoire, c'est-à-dire que quand on le voit à l'entraînement, son langage corporel, son enthousiasme a jamais vraiment changé. Il continue à arriver très, très tôt sur la patinoire. C'est sûr qu'il reste plus longtemps parce qu'il est laissé de côté, là, ça vient avec. Mais, tu sais, je veux dire, disons que tous ces indicateurs-là qu'on peut observer nous-mêmes de lui n'ont pas changé, tu sais, donc ses propos finalement correspondent à ce qu'on peut observer de lui, du moins là, sur la patinoire.
Bon, Simon-Olivier, j'espère que tu es prêt parce que là, j'ai une coupe pour toi, ça s'en vient. J'espère que tu vas frapper solide. Écoute bien ça, là. Je vais te placer dans le rôle du coach canadien de Montréal. Tu vas être Dominique Ducharme. Tu vas affronter les Golden Knights de Vegas qui ont du gros bétail, qui frappent, qui mettent de la pression énormément sur la défensive de ton équipe. Est-ce que tu dis à Romanov, sais-tu quoi, mon cher Alexander Romanov, lâche-toi lousse. Là, c'est le temps, tu frappes, puis on va utiliser le terme en anglais, on va te backer, c'est le temps, on a besoin de tes épaules, on veut te voir en action. Est-ce que tu fais ça avec Romanov?
Ben, je me demande si c'est nécessaire de le faire dans la mesure où cette saison, Romanov, c'est quand même je pense que c'est le joueur recru qui a eu le plus de mises en échec dans la ligue. J'ai pas la stat sous les yeux, mais me semble de mémoire, c'est sûr que ça a été un des défenseurs du Canadien qui a le plus frappé. J'ai pas l'impression que c'est un gars qui, à ce niveau-là, a besoin d'avoir le feu vert ou pas le feu vert. Tu sais, dans le match numéro 4 contre Winnipeg, j'ai pas senti qu'il jouait ses breaks. Il a pas énormément joué non plus, mais tu sais, ça a été assez, tu sais, il y a eu beaucoup d'autocritique justement dans le le point de presse d'hier, mais j'ai pas senti qu'il se retenait, puis je pense pas que c'est dans sa personnalité non plus. Puis c'est drôle parce que j'ai eu la chance d'interviewer Alexander Romanov au cours de au début du printemps et avec par l'intermédiaire d'une interprète, fait qu'il pouvait un peu plus jaser. Puis je l'interviewais, j'ai posé des questions là-dessus justement sur son style de jeu robuste, puis il disait, tu sais, moi je me vois pas comme un joueur robuste, mais quand je paraphrase là, si ça brasse, je vais y aller. Puis je pense que c'est un peu peut-être cet état d'esprit là qu'il va avoir contre les Golden Knights. Si les gros attaquants des Knights veulent rentrer dans la zone, ben il va les attendre avec le sourire, puis il va être prêt à affronter ce défi là maintenant. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas l'espèce d'excès qui vient peut-être avec la jeunesse ou l'inexpérience, puis de commencer à aller dans l'indiscipline. Mais je pense que Romanov a pas besoin de se faire prendre par la main pour dire attention, il y a des gros gars qui s'en viennent, il les attend de pied ferme.
Bon, je te confirme effectivement la statistique qui a fini premier parmi les recrues dans la Ligue nationale cette année. 138 mises en échec. Il y en a d'autres qui ont frappé à un rythme plus élevé, là, mais qui ont joué moins de matchs, moins de minutes. Mais Romanov, 138 est premier dans la Ligue.
Mon Dieu, Simon Olivier, t'es prêt pour coacher le Canadien. T'as très, très bonne réponse. J'ai bien aimé ça, numéro un. Fait que si jamais Dominique Ducharme est malade, ben c'est toi qu'on embarque officiellement.
Je vois pas d'autre option.
Hein. Et voilà, l'option numéro un. On va s'arrêter, on va faire une courte pause. Et hey, puis soyez là d'ici la fin de ce podcast parce qu'on va faire nos prédictions sur la série entre le Canadien et les Golden Knights. Mais au retour, on fait un petit survol dans l'autre série, l'autre demi-finale de la Coupe Stanley entre les Islanders et le Lightning de Tampa Bay. On est de retour en compagnie de Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Lorange de la Presse Plus. Messieurs, allons faire un petit tour du côté de l'autre demi-finale, Islanders-Lightning. Dans un premier temps, comment voyez-vous ce duel? Guillaume, je commence avec toi.
C'est drôle parce qu'à première vue, tu sais, simplement sur papier, en voyant les noms des équipes, on pense tous à un choc des styles parce qu'on pense à l'attaque rapide là, du Lightning au talent et de l'autre côté aux Islanders qui est une équipe de piocheux, pardonnez-moi l'expression, mais je veux dire, c'est beaucoup plus nuancé que ça dans les faits. Premièrement, tu sais, le Lightning a plus de joueurs pesants. Tu sais, Matt Martin est le joueur le plus lourd des Islanders à 220 livres. Le Lightning a 5 joueurs plus pesants que Matt Martin. Tu sais, c'est quand même une bonne différence.
T'as Edmund là-dedans, puis t'as Maroon aussi, là. Maroon, c'est un gros bonhomme qui est pas super, super en shape, puis Edmund, c'est un gros, gros bonhomme, là.
Exact, ben c'est ça. Puis tu sais, l'autre chose qui distingue aussi, c'est que le Lightning est très très lourd en défense, tandis que justement à l'avant, à part Maroon puis Blake Coleman, dans une moindre mesure, là, c'est sûr que c'est ça. Disons que le poids est réparti différemment, tandis que chez les Islanders, c'est plus partagé. Puis on sait, les attaquants robustes, on les connaît, ils sont là depuis toujours. C'est Komarov, Clutterbuck, Cizikas et Matt Martin. Ces gars-là sont un peu l'identité là, des Islanders, même s'ils jouent pas énormément de minutes. Donc tu sais, c'est peut-être pas autant le choc des styles qu'on pourrait croire, mais c'est sûr que le Lightning a davantage de talent pur offensif, ça y a aucun doute.
Simon Olivier.
Ben, j'arrive au même constat que Guillaume, puis je trouve que ça va plus loin. Si je regarde la dernière série entre les Islanders et les Bruins de Boston, j'ai l'impression que les Islanders peut-être arrivent un peu au bout de leur modèle d'affaires, si je peux m'exprimer comme ça. Tu sais, à un moment donné, se défendre, c'est une chose. Puis le pire, c'est qu'ils ont des bons éléments en attaque. Cal Palmieri connaît des très bonnes séries. On sait ce que Matthew Barzal peut apporter. Tu sais, ils ont une attaque intéressante, mais tu sais, ils ont été dominés. Tu sais, l'attaque des Bruins a été meilleure que l'attaque des Islanders dans cette série-là. Tu sais, ils ont donné beaucoup de chances de marquer. Ils ont donné beaucoup de tirs, beaucoup de, tu sais, il y avait beaucoup de buts anticipés quand on regarde les statistiques avancées, et c'était les Bruins de Boston qui, ne vous méprenez pas, ont une excellente équipe, mais ne sont pas, selon moi, à la hauteur du Lightning de Tampa Bay. Et tu sais, les Islanders, tout est toujours contre eux. C'est-à-dire que l'année passée, personne n'y voyait davantage se rendre en demi-finale. Et ils ont donné une bonne opposition au Lightning en demi-finale, mais j'ai l'impression que le Lightning est une machine trop bien rodée pour se faire arrêter par les Islanders, aussi bon soit-il défensivement et aussi bien coaché soit-il, aussi bien soit-il préparé. Je pense que le Lightning est trop fort, aussi simplement que ça. C'est comme ça que je le vois.
Non, mais je suis d'accord que Tampa Bay est tout un club. La seule chose, par contre, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer Lou Lamoriello et Barry Trotz. Tu sais, c'est des vieux renards. Là, on est en train de... Tu sais, on sent qu'on est un club dévoué du côté des Islanders de New York. Ça, je pense que ça peut causer des problèmes au Lightning de Tampa Bay parce que Tampa... Hey, puis en passant, est-ce que ça vous agace, vous, le 18 millions qui est au-dessus de la masse salariale pour Tampa Bay? Parce que là, il y a plein de monde à travers la Ligue nationale qui trouve ça un peu indécent de voir cette formation-là qui fait exploser le plafond salarial. Vous en pensez quoi, Guillaume, d'un premier temps?
Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est ça, c'est Dougie Hamilton, entre autres, qui l'a même carrément dit en conférence de presse. On a perdu contre une équipe qui dépasse le plafond par 18 millions. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je persiste à dire que c'est un art en soi que d'exploiter, de trouver et d'exploiter les entourloupettes dans les règlements. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis si les DG sont pas contents, ils ont juste à se réunir puis à ajouter d'autres règles pour éviter ça. En attendant, regardez les équipes qui les exploitent ont beau jeu de le faire.
Simon-Olivier?
Je vais regarder juste la deuxième moitié de la réponse de Guillaume, c'est-à-dire sur le plan si effectivement les DG ou quelques administrateurs que ce soit dans la Ligue nationale est tanné, ils ont des leviers pour le faire, puis je pense que ça peut arriver. Puis même, je sais pas si à quel point l'association des joueurs serait dans le coup, si ça doit être négocié en convention collective. Moi, ça me dérange beaucoup. Je saisis pas, puis je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast ici, je saisis pas comment ça se fait que pour un obscur soir de février, une équipe, faut qu'elle soit en dessous du plafond salarial, et quand arrivent les séries, c'est chacun pour soi, et tu sais, puis je pense, c'est pas seulement une opinion, c'est un état de fait, le Lightning a pas contourné aucune règle, le Lightning a utilisé le système en place, et exact. Tout le mérite revient à Julien Brisebois pour ça, c'est-à-dire que, comme a dit Guillaume, tu sais, il y a des manières de travailler avec le plafond salarial, et Julien Brisebois l'a fait. Maintenant, puis c'est pas tout à fait 18 millions non plus en haut, je regardais ça hier, si on regarde une formation à 20 joueurs, c'est plus une genre de dizaine de millions, ce qui ressemble grosso modo au salaire de Kucherov, mais bon, après ça, je suis pas mathématicien, mais tout ça pour dire, tu sais, je pense pas que le Lightning se serait privé volontairement de Kucherov pendant toute la saison, mais tu sais, une petite semaine ou deux de plus à la fin pour arriver en série puis qu'il soit frais et dispo, je pense que c'est arrivé, mais tu sais, ça revient à, comme Guillaume le résumé, on peut chialer autant comme autant, si les DG, ça les dérange pas puis eux veulent profiter de ces espèces de petites failles-là dans le système, ben ça leur appartient.
La Ligue nationale ne veut que ça. Regardez, là, la Ligue est faite comme ça, c'est rempli d'arbres creux où il y a une petite cachette. Combien d'équipes ont été cherchées? Combien d'équipes ont été cherchées un joueur sur la liste des blessés à long terme, les Leafs de Toronto, liste des blessés à long terme, t'arrives, t'es à côté au plafond, t'utilises ça, t'es capable de baisser ta masse salariale pour être capable de respecter justement le plafond salarial. Il y a plein, les Coyotes de l'Arizona, combien de joueurs blessés ils ont eu pour avoir le plancher salarial par moment, tu sais, je veux dire, la Ligue offre une multitude d'outils aux équipes, puis Tampa Bay a été intelligent, il a utilisé les outils, puis aujourd'hui, ben là, regarde, ils ont une équipe complète, puis ils sont capables de compétitionner. La Ligue est comme ça, honnêtement, là.
Faut pas oublier, en dépassant le plafond théoriquement en série, le Lightning paye toujours ben juste 1 million point quelque à David Savard, qui est le quart de son salaire, tu sais, qui a été fait complètement dans les règles de l'art encore une fois. Fait que si Savard était payé plein salaire, ce serait encore plus que ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est chapeau à Julien Brisebois d'avoir utilisé le système à son avantage, parce que comme on le voit jusqu'ici, ça le sert plutôt bien.
Bon, OK, messieurs, j'espère que vous êtes prêts parce que là, c'est le temps d'y aller avec les prédictions. Alors, les preneurs au livre, prenez ça en note. On est une gang d'experts et on réussit quasiment à 100% du temps à se tromper. Ceci étant dit, Guillaume Lefrançois, c'est toi qui débute. Tu seras le premier à débuter avec ta prédiction pour cette série entre le Canadien et les Golden Knights de Vegas qui débute lundi. Donc, Guillaume, ta prédiction, c'est quoi?
Les Golden Knights en 6, avec donc une victoire des Golden Knights le soir de la Saint-Jean-Baptiste au Centre Bell, avec Marc-André Fleury, Nicolas Roy, William Carrier et Jonathan Marchessault. Je pense que le Canadien va être assez compétitif quand même pour aller chercher deux matchs. Je pense que là-dessus, Carey Price pourrait voler une de ces deux victoires-là. Mais les Golden Knights sont trop complets, je pense.
OK. Et dis-moi, Guillaume, juste une chose. Le premier match va à qui? Parce que ça, je trouve que c'est important. Ça donne le ton un peu à la série. Selon toi, est-ce que Vegas domine le premier match face aux Canadiens ou le Canadien va être capable d'aller surprendre Vegas à domicile?
Ben, je le donne à Vegas le premier match, mais tu sais, je suis pas prêt à parler de domination. Tu sais, je sais pas non plus si nécessairement il va y avoir des matchs de 5-1 comme on a vu dans d'autres séries. Tu sais, je m'attends quand même à ce que ce soit justement compétitif. Donc, je parlerai pas de domination, mais oui, victoire de Vegas pour commencer.
Parfait. Numéro 1, Simon-Olivier Larange. Maintenant, c'est à ton tour, mon cher ami.
Bon, alors, je vais recycler une bonne formule gagnante. Je vais dire les Knights en 5. Je pense que le Canadien ne subira pas l'opprobre d'être battu par 4 Québécois à domicile le soir de la Saint-Jean. Je pense que, c'est un peu comme je disais des Islanders tantôt, je pense que peut-être qu'ils vont être arrivés au bout de leurs ressources. Je serais pas surpris de les voir gagner le premier match à Vegas. J'ai l'impression que les deux équipes, tu sais, faut pas oublier, les deux équipes, on en parlait tantôt comme quoi, ne se sont pas croisées depuis longtemps. Le premier match va servir beaucoup à s'étudier. On peut regarder des films autant comme autant, mais une fois ça à glace, c'est différent. Je pense qu'on va, s'étudier beaucoup. Puis je pense que les Canadiens pourraient s'en sortir, mais après ça, je pense que quand Vegas va ouvrir la machine, ça pourrait être pas mal plus difficile.
OK, donc Guillaume Lefrançois prévoit une victoire des Golden Knights en 6. Simon-Olivier Lorange prévoit une victoire des Golden Knights en 5. Et moi, Jérémy Rainville, je prévois une victoire du Canadien en 6 face aux Golden Knights de Vegas. Et écoutez bien comment ça va se passer. Il y a une toune qui s'appelle « Dung, 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 under pressure ». La pression est sur les Golden Knights, OK? La pression est sur Marc-André Fleury. La pression va être sur Max Pacioretty. Et quand t'as de la pression, il y a pas pire équipe que le Canadien de Montréal pour te mettre dans le pétrin. Et je pense que ce club-là va mettre dans le pétrin les Golden Knights de Vegas. Et c'est là qu'on sera en mesure d'apprécier ce qui se passe présentement chez le Canadien de Montréal. Et si jamais ces derniers gagnent, ça sera juste trippant. Il y aura une finale de la Coupe Stanley pour nos glorieux. Voilà, c'est dit officiellement. Alors, messieurs, ça complète déjà cette balado pour aujourd'hui. Et puis là, on va se rendez-vous. J'imagine le prochain podcast sera mardi après le match numéro 1, logiquement. À moins que je me trompe, ça devrait être ça.
Ça me semble logique.
Ça me semble logique. Voilà, on a un consensus là-dessus. Guillaume Lefrançois de La Presse, merci d'avoir été avec nous. Simon-Olivier Lorange, merci énormément. Claude Hébert qui était à la mise en onde, un gros merci. Et nous, on se donne rendez-vous dès mardi prochain pour une autre sortie de zone. Merci d'avoir été avec nous.